Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Sugar Free. Aujourd'hui, c'est un épisode avec un invité excellent, Lies Amadouche, qui est artiste de son état, artiste plasticien, prof des beaux-arts à Pékin. Je le connais depuis quelques années maintenant et en fait j'adore parler avec lui parce que on va très rapidement souvent dans des discussions philosophiques, métaphysiques, etc. Mais on a aussi des trucs assez terre à terre. D'ailleurs, vous verrez dans cette discussion, ça commence très bêtement avec du hardware, des puces faites en Chine, nos téléphones portables, etc. Pour aller le fait que nous sommes des psychonautes et qu'on aimerait bien boire de l'ayahuasca et devenir des êtres de lumière. Je vous laisse écouter cet épisode. Vous pouvez aller voir ce que fait Lies sur son site, Lies Amadouche. J'ai mis le lien dans la description. Et vous allez pouvoir voir un petit peu l'étendue de ses talents artistiques. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur iTunes. Et parce que voilà, encore une fois, s'il y a une note avec un commentaire sur iTunes, eh ben ça veut dire que Apple va le mettre un petit peu plus haut dans son classement et donc va pouvoir être encore plus écouté et relayé sur sa page à la une. Donc voilà, merci de donner ce petit coup de pouce. Vous pouvez également faire un tour sur mon site web sugarfree.com ou sur mon Instagram areskisugar, A-R-E-Z-K-I-S-U-G-A-R, pour voir toutes mes dates de stand-up, etc. Même si, là, en ce moment, je veux dire, on va probablement bientôt se refaire confiner de toute manière, donc le spectacle vivant est mort. Mais bon, au moins, il y a encore des podcasts. Voilà, allez, je vous laisse écouter tout ça. Bisous.
Ma voix elle est pas mal, mais...
Et, ah oui, c'est un Huawei. Enfin, c'est très bien ça, il est hyper bien cet ordi. Je vais grave... C'est celui que je recommande à mes étudiants d'acheter.
C'est vrai, le Huawei?
Ouais.
De toute façon, eux, ils s'en foutent de... En fait, je l'ai pris plus ou moins quand il est sorti, je crois qu'ils l'ont sorti à 1000 euros, donc c'était, ouais, ouais. C'était parfait quoi.
Ouais, et en Chine il est encore moins cher, il vaut de 700 à 900 prix max euros, et tu sais, c'est normal, c'est avec les taxes comme d'hab. Oui. Et moi j'en voulais un, le seul problème c'est que si tu l'achètes en Chine, ils te mettent le système d'exploitation chinois, et tu peux pas... Ouais, et tu peux... donc Windows en chinois, et tu peux pas le changer, genre... Pour une raison obscure.
Pas le formater, en fait.
Ouais, pour une raison obscure, eux, ils me filaient, ils avaient un HP qui pouvait me transformer en truc en Windows anglais, mais le Huawei, ils pouvaient pas le faire. Je sais pas pourquoi.
Enfin, c'est qu'ils avaient pas envie, quoi. Est-ce que Trump a raison? Est-ce que Trump devrait.
Ouais, grave, c'est un peu ça.
Ouais.
Non, c'est clair. Tu sais que hier encore, ils ont trouvé une faille dans le quatrième producteur de smartphones au monde, personne ne le connaît, ça s'appelle un truc genre Tenko ou Temco, et il se consacre juste à la vente de téléphones pour les pauvres, en gros en Afrique, etc.
D'accord.
Et ils ont trouvé
qui est un constructeur chinois.
Ouais, c'est un constructeur chinois, et il vend les téléphones à $30. Mais en fait, ils ont trouvé qu'ils compensaient le prix de $30 parce qu'il y avait un Troyan à l'intérieur qui était un adware qui allait payer systématiquement toute la data que les Africains s'achetaient. Parce que tu sais, les Africains, ils n'ont pas de forfait, ils ont juste de la data quantitativement, tu vois, qui s'achètent quantitativement. Tous les matins, ils se réveillaient, et les mecs, ils ont commencé à dire « Oui, j'ai plus d'internet, je ne comprends pas. »
D'accord. Donc, en fait, ils ont utilisé la data comme monnaie et ils les ont prélevés à chaque fois, en fait.
Ouais.
Et c'est, en fait, donc, c'est ton téléphone qui passe des appels sans toi, en fait.
Ouais, c'est un peu comme quand tu as ton forfait SFR. Tu sais, à un moment, tu pouvais payer avec le... parce que ton forfait SFR était relié à ton compte bancaire ou quoi.
Ouais.
Ou alors, tu pouvais payer avec une espèce de monnaie équivalente, qui était une monnaie data.
Mais ça, c'était un truc de... qu'ils ont utilisé, je crois, pour les terroristes, pour justement avoir de l'argent. Non, il y avait eu un truc comme ça, il me semble, où en gros... tu pouvais payer en carte SIM parce que du coup, ça, c'est comme des du cash.
Ouais,
c'est
comme un crédit.
Mais du coup, c'est intraçable puisque...
Ouais, et c'est ouf parce que ça veut dire que les Chinois... Parce qu'après, du coup, l'entreprise chinoise, c'est quand même la quatrième au monde. Donc, elle a dit, ouais, non, on ne sait pas. En fait, si, oui, c'est vrai. Donc, nous, on passe par des protocoles de vérification extrêmement rigoureux.
Ouais.
Donc, en fait, c'est dans la chaîne de fabrication. Hein, c'est l'un de nos prestataires de services qui a dû parasiter avec des ransomware.
En gros, plus la faute à quelqu'un d'autre. Ouais. On sait très bien que le gouvernement... Du coup, est-ce que tu n'es pas devenu trop fort en... ou trop intéressé en toutes ces actions des grandes entreprises, etc., depuis que tu viens en Chine. Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que tu étais quand même intéressé par tout ça?
Ouais. Bah, tu sais, il y a eu la grande info qui disait que Apple avait capitalisé à 2000 milliards d'euros ou de dollars, ce qui est la somme des entreprises du CAC 40, tu vois. Et donc, en gros, en termes de superpuissance, en termes de ce que ça veut dire en relation de puissance, tu vois, puissance des pays, puissance des compagnies privées, c'est voir d'un côté les États-Unis s'atomiser en des puissances privées, et voir de l'autre côté la Chine ne pas du tout s'atomiser et être une espèce d'union totale entre ces entreprises
et eux-mêmes,
voilà, qui font de l'espionnage, qui sont complètement au service de l'État, de la nation. C'est un énorme contraste pour moi, tu vois.
Mais j'ai l'impression que tout est quand même lié. C'est en fait ces deux façons de faire un peu la même chose. Je lisais un article sur une entreprise qui s'appelle Crypto AG. Et qui est une entreprise, en fait, qui a vendu des outils de cryptage et de cryptographie à tous les services de renseignement du monde.
Ah, pas mal.
Et en fait, qui est né dans les années 40, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été noyauté par la CIA depuis. Et ça vient juste d'être révélé que, en fait, la CIA et aussi les services de renseignement ouest-allemands ont... En gros, c'était les investisseurs secrets de ce truc.
Ouais.
Et qu'à chaque fois qu'ils en vendaient pays, même des pays alliés, ils avaient une backdoor pour tout savoir. C'est-à-dire qu'en fait, la CIA savait pratiquement tout de tous les gouvernements qui utilisaient ça. Genre, ils ont aidé les Anglais pour la guerre des Malouines, tu vois, plein de trucs comme ça.
Ouais.
Donc en fait, tu revois l'histoire en te disant « Ah, mais ça se trouve, il y a plein de trucs que vous pouviez faire aussi. »
Ouais.
Et que vous aviez pas arrêté, par exemple, tu vois, des génocides ou des choses comme
ça. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Non, l'histoire et ma lecture de l'histoire, je peux pas du tout avoir une, même malgré tout ce qui se passe en Chine politiquement, qui est extrêmement critique, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis en termes de liberté individuelle, de la NSA qui flique toute sa population, de ce qui se passe à Guantanamo, du fait que si t'as le sida, tu peux pas simplement aller sur le territoire américain.
Ah, ils l'ont pas enlevé, ça?
Non,
ils l'ont... Un truc comme ça.
Ah ouais?
Ouais.
Ouais, peut-être qu'ils l'ont enlevé, alors. Mais moi, quand j'avais signé mon ETSA, j'avais, tu sais, le truc pour y aller.
Ouais.
J'avais lu ça, j'ai pas le sida. Et je me disais, tiens, mais du coup, si je l'ai, comment on fait, tu vois? Bah, t'y vas pas. Et y a les intrications en ce moment des sociétés sont telles que, par exemple, un cas typique, c'est Volkswagen qui a été. Ils ont découvert que Volkswagen, pour passer les tests d'émissions de CO2, ils avaient une puce dans leur moteur et que les puces détectaient que c'était des tests d'émissions de CO2, parce que les protocoles étaient systématiques et donc transformaient complètement le taux d'injection entre l'oxygène et l'essence pour dire voilà, en fait nous on émet beaucoup moins de CO2, donc c'est bon, ça passe les tests.
Ils ont fait une voiture qui répond bien aux tests
voilà
et pas qui émet moins de CO2. Ouais,
exactement. En fait. Et donc ça, ce paradoxe, ce qui, tu sais, il y a eu un drame énorme. Volkswagen s'est fait vilipender. Ouais. Et puis il y a eu un retour de voitures conséquent par rapport à ça. Il y a eu des procès. Sauf que Volkswagen, ils commandent les puces qui contrôlent les moteurs à une entreprise américaine. Mmh. Et la demande. Et là, tu sais pas en fait si la demande est venue de Volkswagen dans la modification de ses puces, parce
ou
que
si on leur a proposé,
voilà, ou si on leur a proposé en tant que service, on peut faire ceci. Et en fait, quand j'avais lu sur le net que c'était beaucoup plus systémique que ça, c'était la pointe de l'iceberg.
C'est vrai, Volkswagen, t'as raison, parce que j'y ai jamais pensé, parce que dans ma tête, comment l'électronique était aussi fait par Volkswagen, mais pas du tout. Non. C'est vrai qu'en fait. En vrai, il y a plein de stades où il y a des verrous éthiques qui peuvent être... tu sais qu'il peut y avoir plein de lanceurs d'alerte, mais il n'y en a jamais, en fait.
Bah oui.
Il n'y a jamais quelqu'un, justement, du truc de micro-puce qui va se dire... Ouais. Et franchement, ce que nous demande Volkswagen, c'est pas du tout safe.
D'un point de vue éthique, c'est pas
en
bien.
En fait, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde était en mode bas les couilles, pillage juste avant l'effondrement. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, grave.
Tout le monde est un peu en mode, tu sais quoi? Tout le monde est à deux doigts du burn-out, en fait.
Ouais. Non, mais...
Tout le monde se dit, franchement, tu sais quoi? De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre. Je prends mon salaire jusqu'au dernier cent, jusqu'au dernier mois, et c'est tout. En
fait. Ouais, mais c'est sur... ça me fait penser, genre, il y a trois mois, il y avait une flopée de documentaires qui étaient arrivés tous en même temps. Sur Arte, sur différentes sources, Vimeo, etc., YouTube. Et tous, ils avaient ce même truc, c'est en fait, on a compris quelque chose. C'est une révélation, c'est les élites en ont rien à foutre. Tu sais, ça partait très vite en complotisme, etc. Les élites en ont rien à foutre. Moi j'ai assisté à des conversations, pas moi personnellement, mais tu vois, des gens qui rapportent ça. J'ai assisté à des conversations d'élites. De grands traders, de richissimes propriétaires de Reuters, d'éminence du monde contemporain, qui disent non, moi ce que je fais, c'est que je vais construire un bunker en Islande. Et parce qu'en fait la fin du monde arrive tel qu'on le connaît, donc pour cette transition je pense que je serai mieux là-bas. Et il y en a une flopée de bunkers qui sont construits dans certains endroits du monde, et certains ont pris ça comme espèce de ok, en fait on s'en fout, c'est bon, le monde tel qu'on le connaît avec 7 milliards d'habitants, c'est plus possible. Malthusianisme total. Mais, tu vois
c'est marrant parce que c'est pareil aussi pour le constructeur de bunker, tu vois ce que je veux dire? Le constructeur de bunker, il s'est dit là on est en train d'en faire 10 000. D'habitude j'en faisais 4, tu vois ce que je veux dire? Du coup à un moment, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il se dit de toute façon moi je m'en fous parce que je peux faire mon bunker à moi? Ou est-ce qu'il n'a pas une semi-responsabilité de dire, je sais pas, est-ce que le Monde, le New York Times, vous pouvez en parler, en fait? Parce que, tu sais, ou est-ce qu'il se dit, c'est pas grave, on s'en fout, c'est comme la crise de Cuba des années 60, tout le monde s'est fait son bunker, alors que rien ne s'est passé, et moi, ça me permet juste de faire de ma thune. Ou est-ce que s'il se passe vraiment quelque chose de grave?
Je sais pas.
J'ai vu qu'il y avait eu un think tank qui avait été engagé par quelques milliardaires. Dont le sujet était, comment je garde mes employés loyaux après l'effondrement. Du coup, tu...
En fait, c'était genre, est-ce que tu dois mettre des barrières? Est-ce que tu dois mettre un système de rétribution?
Voilà,
est-ce que tu dois les armer ou ne pas les armer?
Comment donner envie à mon garde du corps du Mossad de rester avec moi et de pas aller ailleurs?
Ouais, mais c'est passionnant. Moi, ça me passionne parce que, en gros, tu te dis, on est dans un très très bon épisode de Netflix. Parce que techniquement, si on était dans les 30 Glorieuses ou si on était dans les États-Unis de 1950, etc., si on serait tous des drogués à se comparer nos voitures et nos maisons dans un gazon super vert et des standards sociétaux reproductibles. Je veux dire, moi, ma façon de vivre, c'est probablement la tienne aussi, c'est que, bon, en fait, on ne sait pas de quoi sera fait demain.
Ouais.
Et donc, il y a la surprise. Tu as envie de voir le prochain épisode. Tu sens le changement constant. Ouais.
Mais moi, ça m'excite, en fait, plus qu'autre chose en ce moment, en fait. Parce que je me dis, tiens, pour une fois, il se passe des trucs que j'avais pas prévus.
Des trucs...
Une pandémie, etc. Tu t'aurais dit, il y a 6 mois, on va tous être à la maison pendant 3 mois. J'aurais dit, quoi?
On va porter des masques, mais que quand on fait 100 mètres dans la rue et quand on se lève de table au restaurant. Non, mais c'est passionnant parce que c'est vrai que... Dans ce chaos, tu peux aussi, ça te permet de rêver le meilleur des mondes possible. Et ça t'encourage à le faire, en fait. T'es là, ok, donc là, je suis en train de critiquer, c'est de la merde, etc. Mais qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce que j'attends de mes pères? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Comment je pourrais devenir un homme meilleur? Et tu sais, ça te met en miroir.
Mais quoi. Oui, mais c'est marrant parce que tout le monde parle de ça, justement, de ce qui s'est passé avec le confinement, notamment, de pouvoir, en fait, se recentrer sur... C'est pour ça que j'adore, de manière générale, tout ce qui est... film, monde post-apocalyptique, ouais. C'est qu'en fait, on revient à la base. Ouais. Et la base, c'est du coup les interactions humaines,
ouais.
À qui tu peux faire confiance, quelle est la, ouais. la personne de ton clan, et aussi, mine de rien,
c'est clair.
Juste l'intelligence pure, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que tu vas faire ou construire qui va nous permettre de survivre.
Ouais, la connaissance pratique. Ouais.
Voilà. Et même la connaissance pratique, mais même l'apprentissage pratique, tu vois, c'est-à-dire que tu peux ne rien connaître, c'est ça qui est toujours assez drôle de voir des personnages qui sont ultra éloignés d'aller faire un potager, tu vois, et qui sont en mode genre, ah oui, j'étais trader justement, maintenant, ça ne me sert à rien aujourd'hui.
Clair. Non, c'est clair, moi, c'est pour ça que j'ai un grand kiff sur le mouvement Arts and Crafts, tu sais, c'est quand tous les ouvriers se sont rendus compte que quand on leur proposait de faire un travail à la chaîne pour pouvoir s'acheter la voiture, qui était au bout de la chaîne, tu vois. Il se disait, mais moi, on m'a complètement dépossédé de mon savoir-faire, de mes compétences techniques, et justement, de voir un processus dans la fabrication de A à Z. Et c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est pour ça qu'il y a le mouvement DIY, c'est le renouveau de l'Arts and Crafts en ce moment. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, en gros, dans la production, si t'as la plupart des burn-out, c'est que les gens n'ont aucune reconnaissance dans le travail qu'ils fournissent, parce que c'est trop d'abstraction.
Ouais, ils sont trop déconnectés du produit final.
Ouais,
en fait.
Exactement. Et or, par exemple, si on était un peu plus à l'essence de ce qu'on est, bah c'est comme tu dis, on est composé d'interactions sociales et aussi de connaissances aussi qui peuvent être pratiques. Le nombre de directeurs du CNRS qui finissent par des burn-out parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont une culture hyper spécifique, tu vois, genre c'est un petit poids dans un
fond, les paysans du Moyen-Âge dans cette partie de la France
mais après en termes de ce que tu peux échanger à tes pairs, du type de conversation que tu peux avoir, tu te rends compte que t'es dans une toute petite lorgnette de quelque part. Moi pendant ma thèse j'ai rencontré des gens comme ça et ils sont tristes parce que
ils sont hyper spécialisés.
Ouais, et en fait, ils sont heureux que dans les choses qu'ils maîtrisent.
Ouais.
Donc ils sont dans un espèce de contrôle, tu vois, de la connaissance totale, mais dès que tu les sors de là, et en fait, tu les sors tout le temps de là.
Oui. Et le reste du monde
Ils sont du père.
Mais en fait, c'est ça, peut-être parce que et aussi eux, ils se protègent du reste du monde en restant qu'avec les gens qui parlent leur langue du coup.
Ouais, grave, c'est le problème un peu du monde contemporain dans le sens où en gros la science est toujours en train de scinder les choses, mais pas tant de faire l'union, et de les réunir. Et donc au lieu de les voir de manière inclusive, elle les voit toujours de manière plus ponctuelle et ça atomise. Et toi, t'es là. Moi, il m'est arrivé de parler à un artiste, son nom on s'en fout, mais qui marche très bien et qui fait que de l'art et science. Et moi, tu sais, moi aussi, je fais de la science dans mon taf, parce que je suis passionné des sciences, mais je suis pas scientifique pour autant. Et puis, à un moment, je lui dis, ouais, mec, et tout, j'ai adoré ton travail sur le césium, le fait que ça, c'est l'unité de temps qu'on arrive à contrôler, calculer, et qui régit les horloges atomiques et tout ça. Et le mec, tout de suite, il se braque et il dit, non, mais attends, moi, je suis pas du tout scientifique.
Bah ouais, mais c'est pas... Et tu comprends quand même ma phrase, quoi. Tu comprends ce que je suis en train de te dire.
Ouais, mais je veux dire, il faisait un travail sur le césium 124 et il le mettait au mur et il expliquait césium 124, etc. Et toi, tu dis, mais donc, qu'est-ce que tu mets au mur? Et je te demande pas d'avoir l'aplomb d'un scientifique pour parler d'un truc de manière passionnée.
Tu veux, ça, c'est le truc de, en fait, on a perdu le De Vinci style.
Ouais, grave.
Le truc de réunir, en fait, je fais de l'art et de la science en même temps et je m'en fous. Et je mets même pas d'étiquette dessus, en fait. Je fais juste des choses.
Ouais, et je regarde la beauté dans les choses, je regarde la nature. C'est un homme de culture universelle.
Ben ouais. Et ça me manque, ça, du coup, effectivement, comme tu dis, une espèce d'approche globale par juste l'érudition partout.
Grave.
Et c'est vrai que le fait de scinder, ça nuit, par exemple, tu vois, la médecine, ça nuit énormément à la médecine, ça. Le fait de scinder des choses et de pas redézoomer pour voir comment tout fonctionne dans quel contexte, tu sais.
Ouais, justement, en fait, c'est ce qu'on disait sur la question systémique. Genre, tu vois un système en entier et donc, t'as pas juste mal à la tête parce qu'il y a un truc dans ta tête, oui, quoi, voilà. Tu vois, c'est, ça peut être loin, quoi.
Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce qui a probablement posé tous ces problèmes de... d'hydroxychloroquine, et tout ça, tu vois, tout le monde s'est dit, genre, ça a marché sur un truc in vitro ou des choses comme ça, tout le monde s'emballe. Et qu'en fait, tu dis, ouais, mais non, en fait, quand le gars, il vient et qu'il est malade des poumons et que tu lui donnes ça, bah, il meurt. Donc, c'est pas la même chose, en fait,
c'est
ça.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la croyance en la science plutôt que plutôt que la croyance en une certaine forme d'intelligence qui unifie, qui met les choses en perspective en permanence. Après, ça fatigue, hein, je comprends, tu vois. On est... Non, mais ça fatigue, Adam. C'est un problème. Quand t'expliques quelque chose, c'est le problème qui arrive tout le temps aux bons orateurs par rapport aux sophistes. Le sophiste, il cherche à te plaire et à te convaincre. Ouais. L'orateur, il essaye de t'expliquer et de te rendre plus intelligent. Sauf que ça prend du temps, donc il t'emmerde. Et le sophiste, il t'a déjà convaincu.
Oui, oui, bien
donc
sûr.
T'es là, ouais, Zemmour, ouais, et tout. Mais c'est dur.
En plus, c'est la fameuse fausse équivalence du temps passé, tu sais, où le sophiste va pouvoir te dire, bah, regarde, là, tu vois, l'horizon, c'est plat, donc la Terre est plate.
Ouais.
Lui, il a réglé son problème en 2 minutes, tu vois.
Ouais.
Et du coup, les gens vont dire, bah, par équité, vous, monsieur, vous avez 2 minutes pour dire que la Terre n'est pas plate.
Ouais.
Et donc, toi, t'es là, tu fais, ok, comment en 2 minutes, je vais expliquer la gravité, la création.
Alors que le platiste, il a un verre d'eau et il te montre, tu vois, quand je penche le verre d'eau, ça reste plat, donc c'est pas possible. T'es là, j'ai pas tout compris. Explique.
Mais ouais, tout revient en fait à comment on perçoit le monde et la, enfin, les facilités vers lesquelles on penche dans notre cerveau.
Ouais.
Tu vois, je peux même lier le truc de déconnexion par rapport à un produit final et le fait que tout le monde effectivement fait un peu un burn-out et que d'ailleurs très souvent les gens qui font des burn-out, ils se dirigent vers de l'artisanat, des choses comme ça, parce qu'ils reviennent, hein, et je pense franchement ça c'est ancré dans le cerveau humain depuis les premiers humains, le côté de je fais quelque chose et donc je suis responsable de ça et je peux aller le donner à quelqu'un
et en même temps expliquer comment je le fais.
Voilà.
Et c'est-à-dire en gros c'est c'est Jésus qui t'apprend à pêcher plutôt que de filer du poisson, quoi, tu vois. En fait c'est un proverbe de Lao Tzu, c'est un proverbe chinois à la base.
Ouais.
Mais on dit
apprends, c'est Jésus, donne un poisson à quelqu'un, etc. C'est de Lao Tzu.
C'est de Lao Tzu, et j'ai appris ça après. Mais moi ça me fait penser à un truc, tu vois. Moi en tant que bidouilleur justement qui fait de la programmation, qui fait ce qu'on appelle de la programmation orientée objet, tu sais, maintenant tu rentres dans une pièce et puis t'es extasié parce que la lumière s'allume en même temps que t'es rentré dans la pièce. T'es là, 2001 l'Odyssée de l'espace, etc. Mais bon, tu vois pas les capteurs, tu sais pas le code qu'il y a derrière, tu sais pas comment ça marche, mais tu as l'impression de la magie, tu vois.
Ouais.
Et c'est le problème, c'est ce qu'on appelle le problème de la boîte noire, tu vois. Ça ton téléphone, c'est une boîte noire.
Ouais.
Ça marche. Mais c'est le monolithe de Kubrick. Tu ne sais pas quelle est la magie de la connaissance qui le régit. Et donc, moi, toute ma vie, tu vois, j'ai payé mes études à réparer des iPhones parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans.
Okay.
Et j'expliquais au gars, tu vois, là, tu le vois pas, mais ici, c'est ta batterie. Là, c'est ton module Wi-Fi. Là, c'est ton module machin. Et donc, tu peux remplacer, tu peux réparer. La boîte noire est pas faite pour être ouverte. Et déjà, elle te met à distance du fonctionnement de la technologie et elle t'impose une croyance. Elle t'impose parce que c'est trop complexe. Tu peux pas accéder, assez rapidement au fonctionnement de ton téléphone. Donc, elle te soumet énormément à ce qu'est l'objet, son potentiel et surtout, t'es obligé de l'utiliser, quoi. En Chine, par exemple, en France... C'est assez drôle, mais en France, tu peux ne pas utiliser Facebook. T'es pas obligé d'utiliser Facebook Messenger pour parler aux gens.
Et si tout le monde l'utilise autour de toi.
Voilà. Et à Instagram, tu peux ne pas l'utiliser aussi. Mais WeChat, l'application avec qui tout le monde parle, qui est l'équivalent de Facebook et Messenger, eh ben, tu payes aussi avec.
Ouais. Donc en fait, ils en ont fait un truc qui fait que ton commerce est ta vie tous les jours.
Et on te paye aussi avec. Et donc en gros, si tu l'utilises pas, t'es déjà un orla, tu n'existes pas.
Oui, parce qu'à la limite, ici, on peut toujours se restreindre à... C'est un truc social, je peux choisir d'appeler des gens ou alors de communiquer avec des gens autrement.
Ouais.
À partir du moment où tu insères l'économie dedans...
Ouais, c'est bon, c'est fini de les avoir rendus dépendants. Et ce qui est cool, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup chez les gens qui comprennent ce dont ils parlent et qui en ont une... c'est justement qu'ils peuvent partager. Tu vois, ils peuvent t'expliquer, écoute, ça marche comme ça, et ils savent t'enseigner comment ça marche. Et il y avait un truc d'un anthropologue qui était une histoire d'anthropologue trop cool. C'est genre un gars, il va dans la forêt, et puis il suit la tribu indigène qui l'accueille.
Ouais.
Et puis les indigènes, ils lui disent, ah voilà comment on fait un arc, voilà, ça c'est comme ça, et puis voilà comment on fait les flèches, voilà, c'est comme ça. Après, tu l'utilises comme ça. Donc tu pointes, tac, le poisson, tu l'as, et tu voilà comment tu le cuis, voilà comment tu le manges. Et puis l'anthropologue, il dit, ah, c'est cool, merci, etc., c'est génial et tout. Et puis l'indigène, il le regarde et il dit, et maintenant, du coup, tu ta montre, comment tu l'as fait? Tu sais, il dit, la montre, là, comment tu l'as fait?
Ouais.
Et l'anthropologue, il se trouve con, parce qu'il peut rien dire. Et il est là, alors, je sais
déjà,
pas.
Il vous faut des mines.
Grave, alors, on va remonter loin, mon gars. Et tu vois, je t'explique. Et ils peuvent pas, quoi, tu vois. Ils peuvent pas du tout.
Moi, je me dis... Il faudrait que je sache faire un frigo. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, regarde. Regarde. Hey, mais en plus, ça demande une connaissance assez passionnante. Hein. Tu vois, sur l'expansion des gaz, la détente des gaz, la baisse de température, c'est ouf.
Mais ouais, c'est vrai que pour la plupart des gens, la technologie, c'est de la magie, quoi.
Ouais, grave.
C'est genre, en fait, en vrai, imagine. Ça pourrait être la conspiration la meilleure du monde, de se dire, en fait, depuis le début, on dit qu'on fait ça, mais on a demandé à des elfes, quoi. Tu sais,
grave,
Samsung,
grave, grave.
Il y a des elfes de Samsung qui sortent des frigos et on les prend, mais en fait, on sait pas du tout comment
ça marche. Et tous les, comment on appelle ça, les Apple Genius, là, tu
oui,
sais,
c'est ça.
Les Apple Genius, en fait.
Trois gnomes.
Grave. Les uns sur les autres. Non, c'est clair. Moi, je serais grave pour créer la religion de la science. Tu vois, pour dire oui, en fait, il faut qu'on crée un culte parce que le culte, il est là. Donc,
mais c'est ça le problème, c'est que c'est en fait, elle est déjà créée et ça s'appelle la science parce que
les gens
croient. Et c'est ça le truc que je disais sur le fait que en fait, les facilités dans le sens péjoratif du terme du cerveau humain.
Ouais.
C'est beaucoup plus facile d'avoir la foi en un truc et d'avoir réglé le problème, de dire c'est comme ça, plutôt que d'aller se remettre en question. Et du coup, c'est ça la vraie science, c'est de pouvoir dire, ok, comment...
Le doute, ouais.
Voilà, comment ça fonctionne, mais si je change ça, est-ce que ça fait ça, etc.
Ouais.
Et le problème, c'est que la façon d'éduquer les gens en science est mauvaise parce que du coup on leur propose ça comme une nouvelle Bible au lieu de leur proposer ça comme non en fait vous devez tout break down et toujours reposer les questions
Exactement, complètement d'accord. La question de la foi d'ailleurs elle est dévoyée un peu parce que finalement tu vois moi j'ai une foi absolue en mon père, en ma mère, au serveur qui me ramène ma bouffe parce que il faut
c'est pas empoisonné,
tu vois, c'est pas empoisonné, en mon banquier parce qu'il me vole pas de la thune, tu vois j'ai beaucoup de foi placée à beaucoup d'endroits différents, donc même la question de la foi je la critique pas, elle est nécessaire pour une société qui vive tu vois qui coopère quoi. Mais le problème, c'est que à la racine de la science, tu dis en fait la science, normalement, ce qui est ce que tu peux admettre scientifiquement, c'est tout ce dont le contraire n'a pas été démontré.
Oui.
Genre, je peux te dire, mais tu sais, il y a 25 races d'extraterrestres qui vivent sur Alpha Centauri. Eh ben toi, tu peux pas me contredire parce que t'as pas la preuve du contraire.
Oui,
et moi, j'ai pas besoin de ta preuve du contraire, tu vois. Et ils ont tous trois têtes. Je c'est sûr, quoi. Tu vois.
C'est un truc, je sais plus. C'était dans un truc de Ray Bradbury qui disait genre, oui, il y a une énorme boule de chocolat dans la ceinture de Kuiper.
Grave. Et en l'occurrence, en plus, tu vois, il y a toujours la théorie de la 9e planète du système solaire, parce qu'on comprend pas que le Soleil, tu vois, il a un système de balancement comme ça, et donc on se dit qu'il y a une masse avec une orbite elliptique gigantesque.
Mais je crois qu'ils viennent de la trouver plus ou moins.
Ah ouais, je sais pas ce que j'en ai rien entendu parler, mais j'ai pas lu les articles encore dessus. Et donc, tu vois, je veux dire. Alors on est là, on se considère expert de tout, on est là, non mais attends, moi je suis pas du tout, je suis hyper cartésien, je crois en la science. Tu te rends pas compte que t'es en train de dire un gigantesque paradoxe, tu sais. Du genre, oui, mon dieu, c'est Casimir, tu vois, et j'y crois, et c'est vrai, etc. Et ça m'embête, et à tel point que par exemple, mes étudiants, quand je leur enseigne le design, le premier truc que je fais, c'est que je les ramène à Toys R Us, je leur dis, on va acheter un jouet, et on va le démonter.
Ouais.
Et on va voir tout ce qu'il y a dedans.
Okay.
Et pour que vous compreniez que, un, c'est compliqué, deux, ça peut se comprendre, trois, ça peut se réparer, comment ça a été construit, etc.
Et puis, ça peut se redesigner.
Bah ouais, et justement, l'exercice, c'est de le hacker, c'est de le hacker. Et la culture du hack, en ce moment, elle est en train d'augmenter à fond parce que je pense que c'est aussi par nécessité. Tu vois, les gens, ils ont peut-être un peu moins d'argent. aussi ils ont peut-être moins envie de consommer, ils ont envie de donner des deuxièmes vies aux objets de leur quotidien. Et ça les fait, tu vois, mettre les mains, donc ils personnalisent et ils kiffent.
Mais ça, c'est marrant parce que la culture du hack, c'est aussi pour moi une façon de trouver les sciences des mondes parallèles, en fait.
Comment ça ?
En gros, moi, j'ai une théorie, c'est que tout ce qu'on a là, justement, la façon de faire justement ce téléphone, etc.,
ouais,
c'était peut-être juste une lignée d'une arborescence de parce qu'il y a un scientifique qui a découvert qu'on peut faire ceci comme ça, mais qu'en fait il y avait peut-être une autre façon de le faire.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est juste comme il l'a pas créé avant, ben du coup on a pris cette direction.
Ouais. Ouais. Et
c'est hyper beau. Y a le gros exemple de hack que je considère comme un hack, c'est la science des prisons. Parce qu'en gros, les prisonniers, ils ont peu de choses.
Ouais.
Ils font des résistances, par exemple, pour chauffer des plats ou des choses comme ça.
Ouais.
Mais différemment. C'est-à-dire que du coup, tu vois, ils utilisent des fils et la prise électrique. Ouais. Mais enfin, ils se débrouillent, quoi. Et tu te dis, ah, mais tiens, on a une autre manière de faire.
Ouais.
Comme là, on découvre, tu sais, on a découvert, en gros, ça dit un truc, la pile de Mésopotamie,
de
Babylone,
ouais, qui date de moins de 1000 ans,
voilà,
moins de 3000 ans.
Les gars, ils faisaient de l'électrophorèse,
ouais,
il y a 2000 ans,
ouais,
et tu te dis, ah, mais pour eux, c'était je verse ça dans ça, tu vois.
Ouais, ouais, ouais,
nous, aujourd'hui, si on dit électrique, tout le monde va te dire, non, ça a commencé en 1900.
Tesla, c'est le truc. Et apparemment, enfin, moi, de ce que j'en ai lu, justement, de cette pile, c'est que c'était peut-être juste à titre expérimental. Et qu'ils en ont juste pas découvert les arborescences utiles, peut-être, tu vois.
Ouais, la seule possibilité, c'était, en fait, c'est possible de faire, ça les aide, en fait, à mettre des feuilles d'or, justement. Ah, c'est marrant, parce que tu en as parlé hier.
Ouais, ouais.
Mais, mettre des feuilles d'or sur des bijoux, etc.
Ouais, pour l'électrolyse.
Peut-être qu'ils utilisaient ça pour faire des bijoux, en fait.
Ouais, bah, ça m'étonnerait pas parce que les techniques de la feuille d'or sont assez durs à élaborer, donc c'est toujours bien si t'es aidé par de la science à côté, tu vois.
Mais, et du coup, ouais, moi je me dis, c'est marrant parce que grâce au système D, on peut avoir, tu sais, des petits aperçus dans ces mondes parallèles qui ont choisi un autre, tu sais, comme les mondes steampunk. On veut tous rester à la vapeur.
Ouais, en mode Bioshock.
Voilà.
Ouais, ouais. Et il y a un peu de magie, mais genre de la pure magie, tu sais. Genre de la magie où t'es pas là, oui, alors c'est ça qui se passe, etc. Ouais. Non, mais c'est clair, de toute façon, quand tu mets les choses en perspective, quand, par exemple, on m'avait dit, voilà, une analogie de ce qu'est la distance entre la taille de la distance et la taille d'un atome et d'un électron, c'est, l'atome, c'est un grain de poussière, et l'électron le plus proche, il est à la périphérie de la plus grande coupole de la plus grande église de Rome, tu vois.
Ouais.
Et tu dis oui, hein, ok, donc tout est fait de vide, rien n'est tangible, tout n'est que force, tout n'est que transformation permanente, et ça t'emmène dans un espèce d'abîme. C'est comme ce que tu disais sur les univers possibles, possibles en fonction de ce qui a été découvert. C'est une approche relativement quantique, tu sais. C'est l'idée que ce que j'observe existe à partir du moment où je l'observe.
Ouais.
Ce que tous les gamins pensent, tu sais. C'est genre, quand un gamin il rigole parce qu'il ferme les yeux et que toi tu disparais, c'est parce qu'il pense qu'il t'a fait disparaître.
Ouais.
C'est pas parce qu'il a le noir dans ses yeux, etc. Ouais. C'est parce qu'à 2 ans, il est sûr qu'il t'a fait disparaître et que ça le fait marrer. T'sais. Du genre, t'es mort, t'es revivant.
Quand il joue au début à cache-cache et qu'il se cache comme ça, ils se disent, du coup, je suis caché.
Grave, je suis invisible. Grave. Et cette relativité dans la perception, si t'es un peu au courant, si tu regardes.
C'est drôle parce qu'en fait, c'est juste qu'on a gardé exactement le même système, mais qu'on l'a cérébralisé pour des pensées.
Ouais.
C'est-à-dire le déni de certains faits scientifiques, c'est littéralement ça, en fait.
Ouais, c'est
juste, non, je veux pas voir le Covid, voilà, en fait.
Ouais, on est niqué par plein de biais, le biais de la proximité pour l'empathie, tu vois ce qui se passe. Loin, tu t'en as rien à foutre, mais ce qui se passe très près, c'est hyper important. Tu vois, la boulangère, on lui a volé 2 baguettes hier, tu vois, toi, t'es émotionnellement investi là-dedans parce que ça te touche.
C'est vraiment parce que même si on arrive à prendre ce petit écart, ce petit pas de côté pour voir qu'on fonctionne comme ça et qu'on devrait pas fonctionner comme ça, on fonctionne quand même comme ça.
Ouais, grave, c'est impossible. Bah, nos percepts, nos façons de voir le monde sont complètement ken, quoi. On place de l'empathie au pire des endroits.
Ouais.
On place de l'ego au pire des endroits. C'est...
Est-ce que toi, tu, parfois, t'as envie d'intégrer dans un design de quelque chose, peu importe, le fait de justement hacker la connerie du cerveau humain comme ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, grave.
Le fait de...
Ouais.
Je sais pas, d'essayer de dire, ah, mais vous savez quoi, pensez différemment que votre animalité, en fait.
Ouais, je voulais faire ça, et c'est, d'ailleurs, c'est ce que la plupart des artistes qui fonctionnent font, c'est qu'en gros, justement, ils se servent de tes automatismes pour les perturber et te faire réfléchir à tes automatismes. Un cas très pratique, en gros, c'est par exemple, dans toutes les religions, t'as un chapelet, un moulin à prière, une main de Fatma, je sais pas, un truc en gros à toucher, un truc que tu vas toucher de manière systématiquement ou alors un mantra et qui va te foutre en transe. Et ça, pourquoi en fait c'est hyper important pour les religions et les croyances, c'est parce qu'en gros ça te met en transe, donc ça t'active un système d'auto-persuasion et donc tu vas toujours plus, tu vas profondément aller vers un état de pensée. Donc je critique pas cet état et je critique pas du tout les religions, mais par contre c'est un outil ancestral que les gens ont pour focaliser leur attention. Moi ça me passionne ces trucs-là parce que on est genre au quotidien, on est criblé d'applications qui te vampirisent l'attention et ça s'appelle l'économie de l'attention. Il y a plein de gens qui passent leur temps dans des bureaux à se dire alors voilà, par exemple l'effet casino, tu sais, c'est quand tu ouvres ton Instagram, tu regardes toujours ton nombre de likes en premier. Et en fait, quand tu ouvres ton Instagram, normalement, instantanément, tu pourrais avoir le nombre de likes que tu as eu. Mais en fait, le temps où ça met pour apparaître le nombre de likes que tu as eu, c'est variable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'à des singes, quand tu leur faisais appuyer sur un bouton et que la récompense, le temps pour qu'ils aient la récompense, tu sais, des cacahuètes, elle est variable, ça entraîne un comportement addictif automatiquement, tu vois. Donc toi, t'es le singe devant ton Instagram et t'attends le nombre de likes et t'es là, oh putain, j'en ai eu 3. Et des fois, ça dure 5 secondes, des fois, c'est instantané, des fois, ça dure 10 secondes. Et t'es là,
des fois, ça va t'aller sur les 3 minutes qu'il faut pour que tu scrolles et que tu vois 3 pubs.
Grave, exactement. Et cette science, en fait, elle est appliquée, elle nous est appliquée constamment sur... C'est des systèmes de rétribution, c'est des trucs... Pavlovien aussi souvent, tu vois, genre d'association de trucs positifs ou de trucs négatifs. Et on est toujours tenu en équilibre pour ça, mais c'est pas utilisé, comme tu disais, dans notre quotidien pour des trucs qualitatifs. Du genre, allez, aujourd'hui, on va faire un sourire à 3 personnes, tu sais. Et tu pourrais faire une app comme
une
ça.
Une app qui te permet de faire... Oui, tu pourrais transformer... le hack cérébral en truc positif.
Ouais, exactement.
Mais on en revient à... aucun lanceur d'alerte chez Instagram.
Ouais.
C'est ce que je veux dire. Ils sont assez bien payés pour fermer les yeux sur le... alors qu'ils le savent que, là, aux États-Unis, parce que je connais pas les stats en France, mais je crois qu'il y a eu un boost de 56% de suicide des adolescentes. À cause des réseaux sociaux.
Bah ouais.
En fait, ça, ils le savent. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ils le savent, ils ont les chiffres.
Ils savent, ils sont au courant des trucs.
Ouais.
Ils savent très bien qu'ils font ça aussi pour que tu restes plus longtemps.
Ouais, ils sont pervers. Ils ont, par exemple, ils disent, là, on est sur un programme pilote d'avoir enlevé le nombre de likes que t'as par post que tu fais.
Oui, c'est vrai, ouais.
Et donc, t'es obligé d'aller cliquer dans je sais pas quoi pour savoir le nombre de likes. Mais c'est pilote. Donc, en fait, ça leur donne l'image qu'ils sont en train de faire la recherche. C'est quali pour tout le monde. Alors qu'en fait, c'est pilote. Donc, c'est-à-dire que ça atteint 5% des utilisateurs d'Insta. Ceux qui font des articles, tu sais.
Surtout, en vrai, il n'y a aucune conséquence. Genre, enlève les likes. C'est toi qui décides. C'est ton entreprise. Si demain, tu dis Instagram, c'est que je mets des chatons.
Tu le fais. Comme ça, en fait. D'ailleurs, il n'y avait que ça. Et c'était, il y avait une science des chatons à un moment. Tu sais, pourquoi les chatons? Parce que t'as un parasite dans le corps qui fait que tu t'étais au courant
de
ce délire.
Attends, mais le truc de, c'est originaire d'un truc comme la toxoplasmose.
Ouais.
Mais pour les chatons.
Ouais, pour les chatons. La raison pour laquelle les humains aiment les chatons, c'est parce qu'ils ont un parasite qui les font rétroactivement aimer les chatons.
Je savais que la toxoplasmose, ça avait certains effets chez l'être humain.
Ouais.
Parce qu'en fait, la toxoplasmose, c'est un parasite qui se développe bien que dans l'appareil digestif des chats.
Ouais.
je sais que ce que ça fait, c'est qu'en fait, chez un rat, du coup,
oui, ça, oui, oui, ça, le ça rend va dans l'urine,
plus reckless, quoi, genre plus casse-cou.
Ouais.
Du coup, pour qu'il se fasse bouffer
pour, par les chats,
les chats pour que le parasite. Donc, t'imagines, c'est vraiment, on est vraiment dans un truc de invasion of the body snatchers, quoi.
Grave.
C'est un extraterrestre qui te dit comment agir.
Ouais.
Et j'avais entendu un neurochirurgien qui disait, bon, j'ai pas encore de trop de data sur ça, mais ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de motards qui meurent dans des accidents de la voie publique qui ont la toxoplasme. C'est-à-dire qu'en gros, le même mécanisme qui est utilisé pour rendre les gens, pour un peu s'en foutre des conséquences, et ben ça marche chez le rat, mais ça marche aussi chez l'être humain. Alors du coup, nous, ça lui sert à rien, ou pas, parce qu'on va pas se faire bouffer par des chats.
Ouais.
Mais il y a ça, il y a aussi genre les footballeurs les plus qui mettent le plus de buts ou des choses comme ça, sont potentiellement plus exposés à la toxoplasme, parce qu'en gros, tu prends plus de risques à faire des choses par rapport à ta team.
Ouais.
Et juste à aller tout seul faire...
Ouais,
faire
en solo, partir vers les caisses.
Donc ça aussi, tu vois, ça rentre dans une approche globale de quelqu'un.
Ouais.
À aucun moment, tu vas te dire, ce patient, c'est pas de sa faute s'il fait ceci ou cela.
Ouais.
Jamais tu dirais ça.
Ouais, non, il y a des cas... Moi, le cas qui m'avait fait le plus réfléchir par rapport à ça, c'était un mec qui disait « j'ai des pulsions pédophiles ». Et donc, il est allé voir la police en disant « J'ai des pulsions pédophiles. Mettez-moi en prison, s'il vous plaît.
Ouais. »
Et puis, les flics, ils disaient « Ah, vous avez des contenus pédophiles chez vous ?» Il dit « Non. »
«
Vous avez fait des actes de pédophilie ?» Non. Et ben, revenez quand vous en avez fait.
Ouais.
Et le mec, il revient, il fait « J'ai fait quelque chose de pédophile. Mettez-moi en prison. » Ils le mettent en prison. Et en prison, t'as le psychologue qui dit « Je suis... » Donc, il vérifie, tu vois, s'il est toujours ou pas pédophile. Et il lui parle. Et puis, au bout d'un moment, il se rend compte, parce que pendant des examens lambda, qu'il a il est en train de développer une tumeur au cerveau.
Ah oui.
Et donc, en fait, sa tumeur au cerveau, ils disent, bon, en fait, elle est en train de grandir, faut qu'on l'enlève, quoi. Et puis, le psychologue, après, il continue ses examens, il lui dit, je n'ai plus de pulsions pédophiles.
Ouais.
C'est le psychologue qui dit, oui, vous n'avez plus de pulsions pédophiles, c'est incroyable. Donc, est-ce que le fait qu'il ait eu une tumeur était lié au fait qu'il ait des pulsions pédophiles? Je dis pas que c'est le cas pour tous les pédophiles, et surtout pas, tu vois.
Ouais.
Mais je dis qu'en gros, il y a...
qui est responsable de quoi?
Voilà, c'est ça. Qui est la question du libre arbitre, la question du choix.
C'est marrant, le premier pas, c'est ça, mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on s'arrête?
Ouais,
déjà, le premier lieu, c'est aussi pour dézoomer et peut-être être moins, parce qu'en fait, on se pose la question de qui est responsable.
Ouais.
Aussi parce qu'on est dans un environnement où la justice doit être répressive.
Ouais.
Mais le premier problème, c'est justement pourquoi il y a personne qui aide cette personne qui était là avant de faire quoi que ce soit.
Ouais, ouais.
Pour ne pas qu'il aille ruiner la vie de quelqu'un, tu vois.
Bah, j'avais... moi, en tant qu'artiste, je pense que c'est vraiment une réflexion que je porte en tant qu'artiste, c'est que j'en ai marre de voir beaucoup d'œuvres qui sont égotiques, parce que j'ai quand même l'impression qu'on vit dans un monde égotique. Et j'ai l'impression que, du fait de ce monde égotique, la responsabilité t'incombe en permanence, tu vois. Et donc, on évite de penser de manière systémique. Et on dit pas genre, oui, en fait, désolé, peut-être mec, t'as une tumeur, ou alors peut-être que c'est tes parents qui t'ont tabassé toute ta jeunesse, et donc maintenant, t'as des pulsions violentes, etc. Et donc, on responsabilise en permanence l'individu, on légifère toujours plus, tu vois, du genre, toujours et toujours plus. Et finalement, si on était véritablement, tu sais, fait d'empathie, et fait de ok ouais attends viens on parle et attends je vais regarder ton plus large environnement et si on était inclusif si on était bon avec des sites tu vois mais si on était plutôt porté vers l'autre et vers une forme de continuité entre les êtres plutôt que une forme de distanciation d'image d'ego si on comprenait qu'en essence on est juste tous des consciences et qu'on se développe dans des paradigmes, mais qui sont toujours changeants, tu vois. C'est rien n'est solide.
Fixe, ouais.
Ouais, sauf ton être, sauf le fait que t'existes. Eh ben, peut-être qu'on pourrait aller vers une société plus unie, plus harmonieuse et.
Mais je pense que nous sommes des êtres comme ça. C'est juste que on ne peut pas appréhender 7 milliards de personnes de manière empathique.
Ouais, c'est clair.
C'est-à-dire qu'en fait, si on n'était qu'un petit village, on pourrait gérer le cousin qui regardent un peu trop longtemps les enfants à l'école.
Ouais,
tu vois,
ouais, ouais, grave. Non,
parce
mais...
qu'on est assez de personnes
ouais.
pour gérer le fait que bah, déjà, bah, sa maison, on l'a lui construit pas à côté de l'école.
Bah, ouais.
Et,
ouais.
Et que tout le monde fait un peu attention, etc. etc. parce
ouais.
qu'on se dit... C'est bon, on a que 100 personnes à gérer.
Grave, bah c'est en fait, je pensais exactement à la maison. Je pensais aux Suisses qui, dans la loi, ont le devoir d'aller, tu vois, cafeter dans le cas où tu tombes pas ton gazon ou alors
ouais.
T'étends ton linge devant plutôt que derrière ta maison ou ta maison est pas entretenue, la peinture elle est vieillotte, etc. Parce qu'en fait, c'est une société de contrôle, mais pour l'union, l'unité, le machin, tu vois.
Ouais, ouais.
C'était comme le fameux documentaire qui avait été fait sur justement les étendoirs à linge qui dévaluaient les suburbs aux États-Unis,
ouais,
les,
ouais.
qui devaient être parfaites et look parfaites pour justement avoir une valeur de vente constante.
Ouais.
Et bon, bah voilà, il y avait probablement des Noirs et des Arabes ou des Portugais et des Mexicains qui sont venus et qui ont mis des
étendoirs à linge.
Voilà, du genre, moi, je suis sûr t'as une culotte ou je suis sûr t'as un slip, tu vois.
Ouais.
Et donc, je le cache pas, tu vois, une autre culture, etc.
Ouais, ouais.
Et là, eux, société de l'image absolue et du capital, du genre,
ouais.
mon capital, en ce moment, il est à 520 millions d'euros. Et il faut pas que ça baisse, quoi. Faut pas qu'il y ait un mec qui vienne et qui me dévalue ça.
Mais ce qui rentre aussi dans une rigidité, dans cette croyance de la rigidité culturelle. Parce qu'en fait,
ouais.
les étendoirs à linge, c'est typique, par exemple, de l'Italie. Tu sais,
ouais.
les appartements
ouais, entre les appartements
face,
ouais,
où
ouais.
il y a ça,
ouais.
personne se dit ça dévalue quoi que ce soit.
Ouais, ouais,
parce qu'en fait, il y a une nécessité, les gens le font, et
ouais.
ça en devient
bah ouais.
un espèce de truc avec un cachet, en fait.
Ouais.
Et du coup, c'est sous-entendre que l'esprit humain pourrait pas se dire
ouais.
ah bah tiens c'est mignon de voir un étendoir devant une maison américaine
ouais.
tu vois ce que je veux dire
oui.
c'est qu'en fait en vrai tu laisses le pendant 15 ans
grave.
Et ça devient une norme et c'est
grave.
Tout en fait tu
grave
vois.
C'est ça et puis c'est une forme justement de superficialité sans pensée pratique et etc.
Mm-hmm.
moi c'est clair que je suis beaucoup plus animé par le vent qu'il peut y avoir dans un étendoir à linge dans une province d'Italie et des appartements hyper serrés. Et tu vois des gens qui parlent de balcon à balcon, que des mecs qui proposent une image parfaite et surtout répétée.
Oui, oui.
Tu vois d'un suburb aux
oui,
États-Unis.
Oui, bah, après voilà, comme tout, il peut y avoir une recherche esthétique de ça, de pouvoir justement, j'allais dire, comment dirais-je, plutôt une sorte d'œil critique par rapport à ça. Quand
ouais.
tu, moi j'imagine, il y a plein de photos qui sont prises des suburbs comme ça où
ouais.
tu te dis, ah mais en fait, vous êtes une usine à. Américain. Tu
ouais,
vois
ouais,
ce que
ouais, ouais. Mais c'est de la standardisation, ça vient
mais
de là, quoi.
Au-delà de ça,
ouais.
y a rien. En fait, c'est oppressant comme art. Tu vois ce que je veux
ouais,
dire?
Ouais, grave. Carrément.
Du
ouais.
coup, tu te dis, ok, c'est cool. Moi, j'aime bien parfois voir ça parce
ouais.
que tu sais, ça fait genre, c'est
ouais.
l'œil cynique. Moi,
j'aime
c'est
bien. C'est vide, neat et
voilà,
ça me plaît.
Exactement.
Ouais.
Mais tu l'as vu une fois, en vrai, tu l'as vu plein de fois. Quoi.
Ouais, ouais. Et surtout, est-ce que tu veux y vivre ou pas? Et qu'est-ce que ça a comme porté d'un point de vue comportemental? Genre, imagine-toi de vivre là-dedans. Est-ce que t'es content? Moi, au sud de la France, il y avait pas mal de, tu sais, de quartiers qui prennent exactement le même modèle de maison et ils font tac, 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 ils les mettent les unes à côté des
ouais.
autres. Et j'avais des amis qui vivaient là-dedans. Je me disais, c'est quand même horrible que j'aille chez toi ou j'aille chez ton voisin, je sais où sont les chiottes,
ouais, ouais,
tu vois. Et techniquement, ça me plaît pas parce que c'est inorganique. C'est inorganique. Mmh. Il y a pas de vie dans ton délire, quoi. Je préfère entrer dans une maison où entre le salon, la cuisine et ta chambre, je dois descendre 3 marches,
ouais.
tu vois. Ce que je me dis, c'est vivant, quoi.
Moi, je voulais pitcher à des promoteurs le fait qu'ils aient au moins 20 styles de maisons différentes.
Ouais, grave.
Et que même si ça reste un peu genre du fordisme,
ouais.
que au moins tu puisses avoir des maisons différentes.
Ouais.
Parce que tu vois, c'est moi ce qui me gêne surtout dans tout ça, c'est l'incohérence entre la responsabilisation à outrance
ouais.
et en même temps le paternalisme du gouvernement ou de la société par rapport à des trucs. Tu vois,
ouais.
par exemple les règles d'urbanisme.
Ouais.
Qu'est-ce que j'en ai à branler en fait
mm.
que ta maison elle ressemble à une maison de Tim Burton
ah, oui, oui,
à côté d'une maison
ouais.
de Barbie.
C'est ça.
En fait, si je suis responsable totalement,
ouais.
et ben laisse-le vivre.
Ouais.
Si je suis pas responsable à
ouais.
ce moment-là, ben ok pour l'urbanisme,
ouais.
mais aide-moi à avoir rembourse-moi le psy.
Ouais,
tu vois ce que
ouais,
je veux
ouais,
dire
ouais, c'est clair, c'est clair. Tu oui, c'est clair que ça pourrait se compenser. Et en plus, je veux dire, il y a des quartiers entiers qui sont nés de la folie d'un mec qui peignait ses volets en rose et que oui. sa maison elle est verte et que ça fait un contraste naturel et que du et coup c'est kiffant,
c'est
tu vois.
Pour là-bas qu'on prend nos billets d'avion.
C'est grave, en fait. Exactement.
Personne t'es. Prend son billet d'avion pour c'est aller ça. À Springfield, Ohio.
grave, c'est ça.
Regarder des maisons.
Après, technologiquement, on va vers là parce que, je veux dire, on va vers une société plus organique et surtout qui est plus fit à qui on est en individu. Parce que moi, je pense aux maisons qui sont imprimées en 3D.
Ouais.
Les maisons qui sont imprimées en 3D, tu peux rentrer quelques paramètres. Mettons par exemple sur ta taille, le nombre de gamins que tu veux avoir, ouais. ta classe socio-professionnelle.
Mais aussi randomiser des trucs.
Voilà, et ça, en fait, justement, ça va randomiser ouais, des trucs ouais. pour les donner de manière organique. Tu vas avoir l'air de vivre dans un champignon, mais il y aura quand même des murs plats.
Oui, oui, oui.
Parce que si tu vis dans une sphère, bah, tu peux pas acheter de commode et la mettre contre le mur, tu vois.
Ouais, on en revient, effectivement, comme tu disais, au fait que, bah, des designers et des gens qui utilisent la technologie vont pouvoir remettre
grave de
un truc
plus organique
ouais plus humain plus individuel ouais. aussi
bah oui bah mes collègues de du laboratoire de recherche ce qu'ils faisaient c'est que ils
duquel le
laboratoire de l'ENSAD Lab des arts décoratifs ouais. et il y en a un sa thèse c'était ok en fait donc une imprimante 3D ça imprime un truc comme ça. En fait, je me suis rendu compte que ce qui donne de la qualité du vivant, lui, il s'est rendu compte que ce qui donne de la qualité du vivant à un dessin, c'est la randomisation, le hasard. Et donc, il met part du code des procédés qui génèrent du hasard. Et donc, ça donne un look organique et ça donne une plus-value esthétique où tu dis, ouais, en fait, c'est dans l'erreur que tu trouves
ouais.
De la beauté, ouais. De la spécificité. Et c'est ce qu'ils sont en train de... C'est ce que... De grandes entreprises, je crois qu'il y a une entreprise nantaise en France qui fait des maisons imprimées en ciment,
ouais.
en ciment, et c'est ce vers quoi on va.
Ouais.
Tu vois, un truc beaucoup plus naturel, un truc où, par exemple, il suffit d'inclure certains espaces entre deux couches de ciment, et ben, tu vas avoir de la mousse qui va venir,
ouais.
et comme du lierre qui va se prendre, et qui, tu sais, qui va donner vraiment un truc vivant à ce que tu observes.
Le problème étant, qu'il faut pas être fainéant. C'est-à-dire ouais, qu'en fait, non. il faut
bah ouais.
penser à ça, mais surtout aussi, c'est-à-dire qu'en tant que promoteur, par exemple, il faut que je me dise, ben non, je veux mettre l'argent dans un designer
ouais.
qui va pouvoir penser
ouais.
mes futurs appartements ou mes... Tu vois,
ouais.
c'est le fameux truc dont on parlait d'ailleurs hier, le côté de genre, j'ai pas envie de payer mon logo.
Ouais,
mais
c'est
en fait,
clair.
Si tu le payes dès le début...
Ouais.
T'es sûr que ce sera ce qui représente mieux ta marque
ouais,
sur le temps, quoi.
C'est ça, hein, c'est clair, hein, ton investissement du début est quand même important. Après, pour comme là aussi, l'idée de la simplification, le fait que tout le monde sache utiliser Photoshop, Illustrator, ben, tout le monde se dit oui, en fait, j'ai accès à cette connaissance. Et justement, ouais. on ne voit pas la subtilité qu'il peut y avoir, le degré de subtilité qu'il peut y ouais. avoir dans la recherche créative.
Mais parce que j'ai l'impression que les gens, pour le coup, tu vois, même si on les responsabilise énormément, ça reste quand même des enfants sur pas mal de sujets, quoi. C'est-à-dire qu'en gros,
ouais.
il faut pouvoir dire... L'ergonomie, par exemple, les gens ne
ouais.
comprennent pas.
Ouais.
Combien de fois je suis rentré dans des cabinets dentaires où tu... le fauteuil,
ouais.
il est placé trop proche des tiroirs derrière.
Et, ah,
donc,
oui,
en fait,
d'accord.
tu baisses le fauteuil, toi, en tant ouais. que praticien, t'as pas la place. Et tu te dis,
ouais.
vous êtes conscient que c'est... Genre, vous l'avez créé, ce...
Ouais.
Depuis rien du tout.
Ouais.
Tu pouvais juste décaler
de 50 cm. Ouais.
Ouais. Tout le problème était réglé, mais t'as pas réussi non. à penser à l'avance, en fait.
Non,
donc,
mais...
après, ce qui aide, effectivement, c'est la facilité de façonner les choses maintenant.
Bah, ouais.
Dans le sens où maintenant, si on se dit, vu qu'une machine peut fabriquer la chose,
ouais.
on peut plus allouer de l'énergie, de l'argent,
ouais.
etc., à le
pratique.
Penser
ouais.
avant.
Bah, c'est marrant parce que moi, je réfléchissais pas mal à ça. Pourquoi un mec se dit, tiens, je vais mettre... Quand tu rentres dans l'appartement de certains de mes amis, t'as l'impression de voir une page Ikea. Mais comme tu dis, d'un point de vue ergonomique et de l'habitabilité, c'est nul.
Ouais.
T'es là, ok, ton tabouret, il est très minimal, etc. Mais en fait, il fait mal au cul, mec.
Ouais, c'est trop ça. Et ta table, on peut pas mettre deux
voilà,
verres à côté. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et ok, elle glisse, et c'est super pratique, et c'est super comment dire, ludique.
Ouais.
Mais en fait, je vais jamais la faire glisser.
Ouais.
Et puis, tu vas la poser dans une position, tu la bougeras jamais plus.
Ouais.
Et donc, le sens, je pense qu'en fait, ce sens pratique, il est complètement niquer par Instagram. Pourquoi? Encore, hein, parce que tu fais de l'image, tu vois. Et donc, en fait, là où avant, je sais pas moi, au 19e siècle, il y avait 30 pélos qui faisaient de la composition et qui pensaient, tu vois, en termes d'image et de peinture, et que c'était bien d'avoir un fond noir, que la figure des gens rentre en contraste sur un fond noir, que ici c'est mieux d'avoir une conversation, ici c'est mieux de peindre les gens, tu vois, si t'es un artiste, mais maintenant tout le monde se dit non mais faut faire image, donc mon appartement il doit être beau et il doit être beau selon ses critères. Or il faut que je fasse tout rentrer dans ce cadre là et donc en fait pour l'image tu composes d'une certaine façon, en effet c'est beau, mais par contre en termes pratiques jamais tu vas t'asseoir là, et si tu dînes là tu seras un pauvre malheureux, tu vois.
J'avais jamais lié la praticité la perte de praticité peut-être des gens parce que on est obsédé par l'image.
Et tu composes et tu perds justement ce que le côté vivant, le côté organique, encore une fois le côté très
et parce qu'en fait ça demande abonnémique. De te projeter, tu vois, non seulement spatialement mais de te projeter dans une narration normale. Alors après j'imagine que toi c'est comme ça, mais moi mon cerveau il est tout le temps en train de se faire mettre des films jusqu'à des détails, c'est-à-dire qu'en gros si je m'imagine une scène, je m'imagine en 3D, où est-ce que je vais me positionner, qu'est-ce qui va se passer, même si c'est juste pour demander du pain.
c'est pas tout le monde. Hein.
Déjà, j'ai lu un truc comme quoi il y avait 2% de la population qui ne sont pas capables de se représenter des images.
Ah ben non,
Déjà, moi, je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'en gros, si tu leur dis « pense à un mouton », ils ne peuvent pas.
Ouais.
Ce que je trouve, genre, je ne comprends même pas, en fait, moi, pour te dire. Parce que moi, c'est le contraire, c'est tellement le contraire que c'est mon grand cheval de bataille, j'ai plus envie de parler, j'ai plus envie de communiquer autrement qu'en mettant, en t'envoyant les images.
Il y avait une super expérience que je faisais moi avec pendant ma thèse, comme je parlais avec les scientifiques de neurosciences, ils me disaient exactement ce que tu dis, les gens n'encodent pas l'information de la même façon.
Oui.
Je disais à quel point, et ils me disaient, fais l'expérience, demande autour de toi, qui, quand il a un souvenir, il est en noir et blanc, ou alors il est en mouvement, ou alors il est en image, ou alors il peut se balader dans lequel en 3D, ou alors en fait il est vraiment plan, ou alors il est vu à la première personne, ou alors est-ce qu'il est vu de l'extérieur. Et donc en fait, si tu poses toutes ces questions à quelqu'un, tu peux comprendre qui est la personne. C'est-à-dire qu'en fait, si elle encode plutôt des images statiques, elle va être plutôt dans une forme de perception. Si elle encode plutôt dans une vision subjective, elle va être dans une perception subjective. Elle sera plus, et chacun en fait a ces trucs-là. Par exemple, moi, je peux te dire, tu me parles de mon dernier souvenir. En fait, j'ai une succession d'images statiques. J'ai rien d'animé comme vraiment une animation, tu vois. Et elles seront en couleur, un peu floues, et je les verrai à la première personne.
Ok.
Et donc, en gros, vraiment, c'est très spécifique au type de personne que t'as.
C'est là que tu vois que... Alors, je me considère comme quelqu'un d'extrêmement ouvert, mais c'est là que tu vois que même moi, tu vois, ça fait quoi, 5 ans ou quelque chose comme ça, que je me suis ouvert à la possibilité que d'autres gens puissent penser les choses, mais penser, c'est-à-dire la forme de penser. Tu vois, on n'est même pas juste à penser différemment. C'est-à-dire que vraiment, je pars du principe. Moi, j'ai toujours cru que tout le monde...
Il y a une universalité.
Penser, ses souvenirs, ses choses comme moi, tu vois. Et du coup, comme tu le dis, effectivement, il y a une représentation de la psychologie de la personne qui est genre évidente quand tu te dis moi c'est que à la première personne parce que je me souviens pile de ça, mais en plus j'ai pas le son, tu vois, j'ai juste l'idée, ou alors je me souviens exactement de ce que la personne a dit, là c'est autre chose,
ou de la voix de quelqu'un ou du parfum de quelqu'un qui te permet justement de plonger ou non dans un univers.
Mais tu vois, ça c'est marrant que des choses aussi connes vraiment genre verbatim c'est pas dit à des gosses. Genre moi on me l'aurait dit et j'aurais été là genre penses pas en image, déjà j'aurais été tu vois, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, quoi.
Il y avait quelqu'un qui me disait, parce qu'en gros t'as la façon de percevoir les choses, ça dépend essentiellement de trois vecteurs. C'est soit tu les sens, donc tu les touches, des vibrations, des mouvements, soit tu les entends et soit tu les vois. Or 95%, encore à cause d'Instagram et de la société, de l'ego, du paraître, de l'image, sont visuels. Moi par exemple, je suis visuel, Mais je serais très sensible à des choses auditives. Et puis, si quelqu'un passe à côté de moi avec un parfum que je connais, je vais immédiatement penser « Ah tiens, ça c'est Schmilblick que je n'ai pas vu depuis 3 ans. »
En plus, c'est drôle parce que l'olfaction, c'est le sens qui est le plus proche cérébralement, ouais, nerveusement, ouais, des souvenirs et du centre des souvenirs.
Ouais.
Donc ça, c'est un truc qui est organique, en fait,
ouais,
qui est chez tout être humain. Et ouais, pourtant... on l'utilise, enfin c'est pas même pas qu'on l'utilise, en fait on le subit.
Ouais, on le subit
de manière totalement passive.
Non, ouais.
En mode ah oui, effectivement, ça me rappelle tel, ouais, truc, alors qu'en fait,
bah ouais,
on pourrait l'utiliser activement. Enfin, je sais non, pas, mais, tu vois, mais, il y a mais, forcément bah, pareil, je... tu vois, un monde parallèle où tout est un peu plus égalisé entre vision, audition,
c'est ça.
Peut-être qu'ils interagissent différemment.
Mais, et ça pourrait être des outils de ouf, parce que si les gamins, comme tu disais, on leur enseignait à sentir et à écouter et à ressentir les mouvements de manière spécifique et à goûter aussi, déjà dans leur encodage des informations quotidiennes, ils pourraient encoder avec du goût, ils pourraient encoder par l'odeur.
C'est vrai, ouais.
Ils pourraient, alors que à l'école, on oblige tout le monde à avoir du visuel et de l'auditif. Et beaucoup de gens ratent leur scolarité simplement parce que par exemple, moi pour apprendre, j'ai besoin de marcher dans une pièce, mec, tu vois. J'ai besoin d'avoir mon vocabulaire et de marcher, ça me fout en transe, je retiens plus vite.
Ouais.
Et je pensais à ça, pourquoi? Parce que...
Non mais c'est marrant parce que c'est vrai que comme tu dis, c'est juste le fait de même storer l'information.
Ouais.
Tu coches pas toutes les options.
Ouais, tu coches pas toutes les options. Et voilà, il y a une femme par exemple en Allemagne qui a bossé avec un labo de recherche qui, comme je te l'ai déjà dit, peut sentir le cancer des seins de la femme quand elle sent. Moi, par exemple, je sais si j'ai un mec qui a un diabète type 1 en face de moi.
Ah ouais?
Ouais, je le sais, parce qu'il a, tu sais, il produit cette enzyme-là, ils l'ont pas, et ça fait qu'ils sentent l'alcool de la bouche quand ils partent dans la laine.
Okay.
Et je le sais, et je suis là, et j'ai envie de lui poser qu'une seule question.
Tu connais cette odeur.
Ouais. Grave, et j'ai envie de lui poser que cette question, tu sais, je suis là, et ça se fait pas, c'est hyper intéressant.
Oui, parce qu'en fait, tu sais aussi, l'odorat, c'est un truc un peu tabou aussi, tu
ouais,
sais,
grave,
tout ce qui est sécrétion corporelle, etc. Les gens en ont
hyper,
honte.
Hyper, ouais.
Alors qu'en fait, c'est une info.
Ouais.
En plus.
Mais c'est hyper intime comme info.
Ouais. Enfin, parce qu'on a décidé aussi que... Alors qu'en fait, tu vois, il y a des trucs visuels qui sont hyper intimes. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir voir aussi quel type de personne va être sous quel psychotrope. Parce que il y a un petit peu de salive qui est pas assez visqueuse qui est ici, tu vois.
Ah putain. Oui.
Et...
Ouais, hyper bien.
Du coup. Mais c'est intime aussi.
Ouais, c'est
mais c'est juste, mais là pour le coup c'est passif dans le sens où t'es pas obligé de lui dire en fait. Mais
t'es pas obligé.
C'est quand même juste des afférences
qu'on
décide de pas avoir en fait.
Ouais, mais c'est vraiment si certaines personnes se rendaient compte de ça, notamment par exemple le mec qui a de la bave au coin, mais surtout en fait le gars qui vient de se lever, qui s'est pas pris de douche et qui est sorti en retard au taf, mais tu sais il est très propre sur lui, mais il sent la couette. Tu vois, genre en fait, du coup toi mentalement tu retournes jusqu'à son lit quoi. Tu vois, genre t'es là, gars, tu suis, t'as remonté la rue, t'es sorti du métro et t'es là, t'es dans sa couette avec lui. Et par exemple chez les Chinois, ils se douchent la nuit pour dormir confortablement et le matin ils ne se douchent pas. Et pour moi c'est une invasion totale parce que j'ai l'impression qu'ils ramènent leur couette avec eux, tu sais, le matin. Ah bah dis donc, ça t'as bien dormi toi, tu vois. et c'est hyper intime quoi, tu vois, c'est pas une odeur que t'as l'habitude de sentir chez les gens quoi.
Mais j'avais lu que les ours, leur odorat était tellement fort qu'en fait ils voient dans le passé, c'est à dire qu'en gros ils voient le fantôme de l'animal qui ils peuvent voir, il était là, il a mangé là, il est parti là-bas,
etc. Assassin's Creed qui a traqué les odeurs.
Comme si c'était un médium, quoi.
Ah, c'est ouf, ça m'étonnerait pas du tout. Hein.
Est-ce que tu penses que... On va peut-être finir sur ça, parce que malheureusement, tu
il est 11h.
Il est 10h40. Donc
c'est bon, on a le temps. Là.
Mais on pourrait optimiser l'être humain pour regagner peut-être tous ses sens perdus et les maximiser. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
En fait, en gros, être plus en accord avec notre corps, en fait.
Ouais.
Et aussi, pouvoir y apposer, enfin tous les trucs en plus qu'on mettrait, ouais. Ce serait pour des trucs éthiques, tu vois.
Ouais, bah je serais grave d'accord avec ça, mais par contre j'ai une sainte horreur de, comment on appelle ça, du transhumanisme. Bah parce qu'en fait l'idée qu'on s'optimise par quelque chose d'extérieur alors que tout est déjà potentiellement en nous, ça m'agace.
Ouais.
C'est une solution de facilité encore, c'est genre le smartphone dont tu connais pas la possibilité. Alors je dis pas, je dis qu'il faudrait poser des questions éthiques autour de ça, je suis pas contre. Fondamentalement, je suis pas contre la technologie, mais je m'en méfie parce que t'as toujours des lobbyistes qui sont
bien
là.
Sûr.
Ah ouais, t'es contre le fait qu'on aide les handicapés à parler avec les yeux et parler avec l'esprit. Ouais, t'es un connard et tout. Donc ça, c'est des arguments de lobbyistes qui m'intéressent pas.
Ouais.
Tu vois, c'est plutôt quels vont être les effets sur la société, etc. Si je dis aussi qu'on a déjà les outils en nous, c'est que fondamentalement, par exemple, la méditation est un truc complètement dévoyé. Parce que les gens te disent, ouais, alors moi, je vais méditer parce que, tu vois, je prends 20 minutes de vide ou 40 minutes de vide par jour. Et ensuite, ça me permet d'être beaucoup plus productif ma vie du quotidien, etc. Mais ça, c'est de la merde.
Oui.
Parce que tu fais pas de la méditation pour être productif derrière, tu sais, c'est pas...
Oui, parce que du coup, s'il y a une finalité, en fait, au final, tu fais juste de la méditation pour repousser ton burn-out.
Exactement, mec. Exactement. T'es juste là, on va le... Je voudrais une semaine en moins de burn-out. Mais... Je fais comment, monsieur? Bah, méditer un peu.
Justement, est-ce que... Non, au contraire, tu vois, pour prendre l'exemple que tu avais, genre de faire 3 sourires à quelqu'un. C'est-à-dire que,
ouais.
En fait, que la technologie nous serve, en fait, d'espèces de chausse-pied à retrouver
ouais, exactement.
Les trucs
c'est déjà une
organiques, en fait.
Ouais, c'est déjà une
est-ce
prothèse.
Est-ce qu'on pourrait se dire... On fait ça, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, moi j'aimerais que un consortium de tous les gars GAFA et tout ça, enfin,
ouais.
Se mettre d'accord,
ouais.
Mais pour justement nous aider à retape sur sur ces pouvoirs qu'on a en fait, c'est-à-dire que
ouais.
Sur l'interhumain,
ouais,
sur
ouais.
Le sens,
bah,
sur.
Bah pour moi en fait, il y a vraiment deux vecteurs où genre je me suis dit, putain dans ma vie s'il y a vraiment deux trucs qui me font kiffer et qui me permettent ça, c'est ces deux moyens-là. Le premier c'est l'humour. Alors attention, quand je dis l'humour, c'est rire, mais jamais aux dépens de quelqu'un, mais toujours aux dépens de soi. J'avais lu une super préface du rire de Bergson qui disait « Dans une société où tu vois, tu peux faire de la télékinésie, tu peux faire partager, ou même ce sera mal vu, tu vois, d'avoir des émotions, et des désirs, des passions, ce sera vu comme quelque chose de primitif.
Ouais.
Il y aura toujours une chose qui existera, ce sera le rire, parce que le rire te permet d'avoir un recul sur ta condition. » Tu vois, et donc le rire c'est une forme d'intelligence absolue où t'es toujours en train de te regarder genre dire, mais c'est trop ouais tu vois, c'est trop drôle de regarder la machine et les automatismes qui sont en toi, tu vois.
Pas totalement d'accord avec Bergson parce qu'en fait si on est dans cette si on devient ces humains là
ouais.
Mais qu'on a une vision tellement aussi éloignée qu'on sait exactement tout ce qui va se passer, c'est à dire que du coup il y a plus la surprise pour le rire,
non
c'est
à dire
que je peux analyser, je sais que cette personne va glisser sur cette peau de banane.
Oui.
Parce que je connais la viscosité de la peau de banane,
ouais.
Je sais que je connais son poids, etc.
Ouais.
En fait, ça devient un fait.
Oui.
Du coup, il y a plus de...
Ouais.
Tu vois
ouais,
tu regardes et on devient les fameux aliens dont on parle et qui viennent.
Ouais.
Qui juste...
Non, mais justement, je pense pas que le fait d'être en dehors du désir et en dehors de l'affect... je sais pas ce que ça donnerait. Je sais pas ce qu'on serait comme type d'être. Mais ce que je vois, c'est que la méditation a tendance à t'emmener vers là. Vers le vide de la pensée. Vers le vide où tu te dis, en fait, les pensées, c'est du bruit. Donc, en gros, je vais les dégager. Et ça va me mettre bien parce que je suis en recul d'elles. Donc, c'est-à-dire que techniquement, je peux être un observateur de mes affects. Je peux être quelqu'un de neutre. Je peux être quelqu'un qui est détaché, en fait, tu vois. Et le rire aussi, ça te permet ça. Donc, je dis pas que tu serais mieux, je dis pas qu'on serait moins bien. Et donc, en fait, je pense qu'il faut plutôt vivre sa vie. En l'occurrence, moi, je serais plutôt la blonde qui regarde une peau de banane et qui dit « Oh zut, je vais encore tomber », tu vois. Parce qu'en fait, c'est kiffant de tomber, tu vois.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est marrant parce que très souvent, on voit un peu notre futur en... Bah, justement, on va devenir les Grey Aliens qui rigolent pas et qui savent tout.
Ouais.
Tout, surtout.
Ouais.
Et jamais on se dit « Ah, maintenant, mais on pourrait aussi être ceux... » qui kiffent leurs émotions.
Bah ouais.
100%, quoi.
Bah ouais.
Tu vois, moi
grave,
et en fait, c'est marrant parce que quand tu réfléchis à ta vie, tu dis, enfin, moi spécialement, j'ai une vision un peu bizarre parce que même moi, je kiffe les moments où je suis malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, ah, c'est des moments où je ressens quelque chose. Tu vois ce que je veux dire?
Bah ouais.
Et après.
Ouais.
et je les revois avec nostalgie, où je me dis, ah putain, ouais, ce chagrin d'amour que j'ai eu, ouais. Ou ce truc, etc.
Bah ouais. Ou quand t'étais gamin et qu'il y avait une fille qui te plaisait, et que, tu vois, c'était terrible pour toi parce que tu transpirais, tu te faisais des psychodrames, ton cœur s'accélérait, t'avais de la rougeur et tout. Maintenant, si ça me fait ça, je suis là, ouais, vas-y, je le revis, c'est hyper bien. J'ai peur d'aller lui parler à lui. Trop bien.
Ouais, ouais.
Genre, c'est cool, tu sais. Et pour en revenir au Grey Alien, moi, mon témoignage d'Alien qui est mon favori, c'est une meuf qui est perdue dans la province de Londres dans les années 60 et qui dit voilà, mes gamins, j'ai cherché. C'est une paysanne, quoi. Et elle vit dans sa chaumière et puis elle cherche ses gamins, ils rentrent pas. Donc, au bout d'un moment, ils rentrent et les gamins, ils disent il y a un grand vaisseau dans le truc, dans les années 60, tu vois, 70. Et puis la mère, elle dit n'importe quoi, c'est des conneries. Elle y va. Et en effet, elle tombe sur un gigantesque vaisseau et elle dit « Alors, je vois des énormes êtres blancs avec un front gigantesque, des habits collants à la peau semi-brillants. Mais surtout, en fait, ce qu'elle te dit, c'est que j'ai ressenti de leur part qu'ils me regardaient et qu'ils exprimaient pour moi un amour inconditionnel. » Et toi, t'es là « Oh putain, les bâtards, ils y sont réussis. » Genre, ouah, eux, ils sont déjà à l'amour inconditionnel et nous, on est à liker des trucs sur Instagram. Ouais, je veux dire, tu sais, c'est un truc où tu te dis techniquement que l'amour c'est possible, que la compassion c'est possible, et qu'en fait si t'étais pas la victime de tes sentiments, de tes émotions, ouais. Bah peut-être que tu pourrais aller vers un truc genre encore plus extatique et au-delà du bonheur ou de la tristesse qui est extrêmement polarisé, tu sais, les gens qui sont là, moi ce que je cherche c'est le bonheur.
Il y a toute cette palette de sentiments et d'émotions qui valent trop le coup aussi. C'est ça,
et j'aime pas du tout le côté binaire de se dire moi je suis à la recherche du bonheur. Je pense que personne ne l'est en fait, parce que si t'étais tout le temps sous Valium, ta vie n'aurait pas de sens.
Qu'on a besoin de down pour mieux
exactement
vivre
haut, on est tous des gros surfeurs comme ça,
tu vois. À la place on devrait dire, mais encore une fois, tu vois, c'est une espèce de foi et de religion, le truc de je suis à la poursuite du bonheur.
Ouais.
En fait, soit juste à la poursuite de vivre les choses.
Ouais, kiffe ton présent. Ouais, voilà. C'est là l'essence de ton existence. Justement, si t'es à la poursuite d'eux, c'est déjà que t'es en train de courir derrière quelqu'un.
Ouais,
et alors qu'en fait, c'est maintenant, c'est tout de suite, tu vois. Et dans l'absolu, quand je vois un mendiant dans la rue ou quand je vois quelqu'un machin,
tu craches dessus déjà.
Ouais, je crache d'abord et puis je shoote dans le gobelet. Mais ce que je me dis, c'est en fait, il peut tout à fait être heureux et moi, je peux tout à fait être heureux et lui exprimer tout de suite, tu vois, de la compassion, de la joie, etc. Mais tant que t'es dans le présent, si tu vis à l'extérieur de toi, tu vis en projection, tu sur le potentiel de. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que suppléer sa vie à la technique, à la technologie, c'est un gros risque.
Oui.
Parce qu'en fait, tu t'extrais du présent et tu prends le risque de marcher en étant en train de scroller sur Wikipédia dans ta tête. Quoi,
Au lieu, encore une fois, d'utiliser l'outil pour mieux vivre dans le présent. En fait, est-ce qu'on peut espérer que ça, en fait, des futurs designs, des choses, quoi, en fait.
Moi, quand je pense à ce que je suis genre, en tant qu'être, j'ai vraiment, vraiment l'impression d'être un truc au contrôle d'un corps. C'est pour moi le corps, c'est un truc chelou, quoi. Tu vois, je fais ça, ça fait ça et ça suit. Et t'es là, c'est d'une technologie. C'est fascinant, regarde.
Si ça se trouve, c'est déjà la technologie. Grave. En fait. Si ça se trouve, nous sommes l'Instagram de nous-mêmes.
Ouais, on est déjà un autre service tu sais, on est déjà le
Pourquoi utiliser notre Instagram?
Grave, on est déjà la prothèse, on est déjà le gant, tu sais. Et on est là, faudrait qu'on s'ajoute ça et ça et ça. Alors qu'en fait, non, on est déjà. En essence, c'est un truc extraordinaire.
Tu crées un bras robotisé.
Pour utiliser un bras robotisé.
Pour appuyer sur une télécommande. Tu vois ce que je veux dire?
c'est en même temps, c'est kiffant, hein, parce que ça te fait. Tu sais, c'est comme contrôler un tractopelle télécommandé. C'est compliqué, du coup c'est kiffant parce que c'est compliqué, mais en même temps en fait c'est un putain de handicap comme tu dis, c'est complètement, ça n'a pas de sens, quoi. Et c'est pour ça que je préférais m'investir moi, genre ma recherche c'est d'abord mon corps, ma pensée, mon cerveau, mon intellect, plutôt que de suppléer ma quête à la technique et à la technologie, quoi. Parce que j'ai l'impression d'avoir trop à perdre. C'est déjà, j'ai 33 ans, la vie, ça passe, ça fait comme acte. Plus t'avances, plus t'évolues. Et plus ça passe vite, quoi. Et tu dis, ah ouais, en fait, il y a un but. Merde. Ah oh, putain, il y a un but. Je suis peut-être en train de passer à côté de tu.
Stressé de.
Ouais, je me réinvestis. Il faut que je me réinvestisse. Genre dans mon être, quoi. Tu vois, genre, il faut que je tape dans le potentiel de ce que j'ai dedans, tu vois. Ouais. Genre, je me vois grave en tant que capital existentiel, tu sais.
Ouais, ouais.
Du genre, tu sais, c'est un peu genre, tu mets une pièce dans une bande d'arcade, là, c'est complètement Rick and Morty.
Ouais.
Et oui. Du coup, tu vis une vie
tu
comme,
vis la vie,
ouais, comme un jeu vidéo, et soit bah, tu peux être un propriétaire de magasin, être heureux, avoir une Rolex et contenter ces gars-là, ou alors, tu vois, péter complètement le grid et dire ouais moi je sors de la matrice et du coup je vois ça et j'ai vu ça.
C'est ça le truc intéressant, c'est que l'être humain on est les seuls à pouvoir être tu vois dans l'écran les gens qui regardent la caméra, tu vois ce que je veux dire.
Est-ce qu'il
y a quelqu'un qui joue à moi actuellement?
Non mais c'est marrant hein, parce que justement dans l'histoire de, en fait, tu retournes à la caverne de Platon, tu retournes à l'histoire de l'art, ça a été une grande innovation de mettre un spectateur dans les tableaux qui regarde le spectateur.
Oui.
Parce que tu sais d'un coup en fait ça te met dans une relation d'intimité.
La réciprocité du regard.
Et grave. Et ça ça a été un step de ouf. Pourquoi? Parce que encore une fois on en revient à sortir de la matrice, s'observer exister, rire ou méditer et réfléchir à sa condition, quoi. Et moi, dans le taf, dans mes recherches, c'est vrai que je suis toujours en train de mettre à distance la technique, la technologie. Voilà. Après, bon, j'ai un épluche patate, hein, comme tout le monde, tu vois, je veux dire.
Oui, non, mais bien sûr.
c'est quand même pratique et ça va vite, quoi. Ouais. Et c'est important d'en avoir, je crois. Tu vois.
Ben on va finir sur ça, hein, écoute.
L'épluche patate, ok.
Merci, ouais, l'épluche patate, je pense que ça résume tout, ouais. J'allais te dire, est-ce que t'as un truc à plugger, genre normalement, tu vois, à la fin, c'est les gens, ils peuvent faire la pub de ce qu'ils font.
Ah ouais, ok.
Mais toi, c'est le Covid, quoi.
Ouais, grave, moi, c'est le Covid, non, si les gens veulent aller sur mon site internet, j'ai une section blog et j'écris un peu ce que je pense de temps en temps, je vais avoir des parutions, là.
Je mettrai le lien en description.
Merci. Ouais. Bah, merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir de parler avec toi.
De toute façon, c'est le début d'une longue série
de
trucs avec toi, où à chaque fois on va discuter.
Ah, grave, avec plaisir.
Bah, merci beaucoup, et merci, je te dis à très vite.
À très vite. Ouais, c'est trop cool.